Bienvenue dans Avocate, justice pour les animaux. Je suis Graziella Dodd, avocate en droit animalier. Je prends la parole pour nos 100 voix afin de plaider leur cause. Je porterai également la voix de toutes les personnes susceptibles d'avoir un impact dans l'évolution des droits des animaux. Dans cet épisode, je vais vous parler de ce qui constitue le cœur de mon activité, la défense pénale des animaux. Autrement dit, l'intervention de l'avocat dans une procédure pénale, puis dans le procès pénal, au profit de particuliers ou d'associations de protection animale qui ont recueilli des animaux maltraités, ou de particuliers dont l'animal de compagnie a été maltraité. Pour que vous puissiez comprendre vraiment ce dont il s'agit, je vous parlerai de cas concrets que j'ai rencontrés. Avant toute chose, sachez qu'en droit français, plusieurs catégories d'animaux existent et que le code pénal ne protège pas tous les animaux. Dans ce code, vous trouvez différents articles précisant des infractions, donc autrement dit les comportements que l'on considère contraires à la loi et pour lesquels l'on prévoit une peine si ce comportement est mis en œuvre. Et dans le code pénal, ne sont visés que les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Cela signifie que l'on exclut les animaux sauvages. Ceux-ci ne sont pas protégés. Alors oui, cela peut paraître choquant, mais même si un individu commet un comportement répréhensible selon le code pénal, à partir du moment où ce comportement est commis sur un animal sauvage, donc c'est-à-dire un animal qui n'a pas de propriétaire et qui vit à l'état de liberté, eh bien cette personne n'encourt malheureusement aucune poursuite judiciaire. Ce qu'il est important de souligner également, c'est qu'il y a eu une évolution significative de la protection des animaux en droit français d'un point de vue pénal. L'on est passé d'une protection des intérêts de l'homme pour lui-même, plus que d'une protection des intérêts de l'animal lui-même, et on est allé vers une protection de l'animal pour lui-même. Trois exemples peuvent illustrer la prise en compte progressive de la protection de l'animal lui-même. La loi Gramont, en 1950, c'est la première qui réprime les mauvais traitements sur les animaux lorsqu'ils sont commis en public. Donc là, on voit qu'il y a une protection de la sensibilité de l'homme, surtout. Puis, le décret Michelet, en 1959, intervient, et ce texte punit les mauvais traitements commis sur les animaux, qu'ils soient commis publiquement ou en privé. Donc ici, on a une protection de l'animal pour lui-même avec ce texte. Enfin, la loi d'Ombreval du 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale, a apporté des avancées salutaires pour la protection pénale des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, puisque des peines pénales ont été renforcées, des circonstances aggravantes ont été créées et des délits ont été ajoutés. Là, on a un texte qui véritablement prend en compte les intérêts de l'animal lui-même. Alors, sans brosser toutes les dispositions modifiées ou ajoutées par ce texte, l'on peut illustrer les apports de cette loi pour les intérêts des animaux avec, par exemple, le délit de sévices graves et d'actes de cruauté, dont on a apporté certaines modifications. Qu'est-ce que le délit de sévices graves et d'actes de cruauté commis sur un animal apprivoisé, domestique ou tenu en captivité? Eh bien, constitue ce délit, selon le code pénal, le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté sur ce type d'animal. Donc il s'agit souvent des faits que l'on retrouve malheureusement dans les médias, avec des actes de cruauté innommables commis sur les animaux. Et bien souvent, lorsque vous avez ce type d'affaires révélées au grand jour, les présumés auteurs de cette infraction sont poursuivis sur le fondement du délit de sévices graves et d'actes de cruauté. Ce sont des termes qui sont assez évocateurs. Pour reprendre l'expression d'un magistrat du parquet, ce délit, c'est un petit peu le musée de l'horreur des atrocités commises sur les animaux. Lorsque l'on analyse la jurisprudence, l'on constate qu'il y a des décisions de justice qui ont condamné des individus sur le fondement de ce délit, aussi bien en cas de, entre guillemets, simple coup de feu tiré sur un animal, je prends des pincettes en disant ça évidemment, qu'en cas de coup porté par la personne sur l'animal lui-même avec un couteau, avec vraiment une arme qui va faire beaucoup de souffrance à l'animal. Donc les lésions, les blessures des animaux, leurs souffrances sont souvent très importantes, voire extrêmes, lorsque cette infraction est retenue. On a d'ailleurs l'exemple du dalmatien Miro récemment, dont la personne qui a été déclarée coupable des faits commis sur cet animal a été jugée irresponsable pénalement. Néanmoins, le fait d'avoir pendu son animal de compagnie qui a agonisé pendant plusieurs minutes, en principe, est censé constituer le délit de sévices graves et d'actes de cruauté commis sur un animal domestique. Donc c'est un délit que l'on estime caractérisé eh bien, lorsqu'il est démontré que l'auteur a conscience qu'il inflige par son comportement des souffrances aux animaux, qui peuvent les conduire ou non à la mort. Donc on dénote une certaine perversité dans l'acte commis. Depuis la loi du 30 novembre 2021, que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, les peines encourues pour le délit de sévices graves et d'actes de cruauté sont désormais plus lourdes. Avant, les peines encourues étaient de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Désormais, il s'agit de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Je vous disais également que des circonstances aggravantes ont été créées, notamment lorsque l'animal meurt ou lorsque l'auteur présumé de l'infraction eh bien, est le propriétaire de l'animal. Dans ce cas-là, les peines encourues sont plus lourdes. Et pour vous prendre un exemple, eh bien, si l'animal meurt, les peines encourues sont de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Donc pour l'avocat qui défend l'animal, eh bien, ce délit est important car c'est sur le fondement de cette infraction que des peines complémentaires peuvent être prononcées. C'est-à-dire qu'outre une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende, eh bien, la personne condamnée pourrait être interdite soit de détenir un animal à vie, soit de devoir suivre un stage de sensibilisation à la maltraitance animale. Ça, c'est une peine complémentaire qui a été ajoutée par la loi du 30 novembre 2021 et qui permettrait, comme la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal, eh bien, d'éviter le renouvellement de l'infraction. Parce que, évidemment, la répression pénale, ici, ce que l'on va rechercher, c'est qu'on évite que plus tard, il y ait une autre victime animale. Maintenant que nous avons vu l'arsenal législatif et réglementaire du droit pénal français relatif à la protection des animaux, je vous propose d'évoquer les remarques négatives qui pourraient être faites sur ce dispositif et ensuite d'évoquer avec vous eh bien, les évolutions positives constatées. Alors, pour ce qui est du négatif, plusieurs points peuvent être déplorés. J'évoquais avec vous les peines complémentaires de stage de sensibilisation à la maltraitance animale et d'interdiction de détenir un animal de compagnie. En pratique, les difficultés sont les suivantes. La peine d'interdiction de détenir un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité, elle est devenue quasiment systématique en cas de condamnation. Donc ça, c'est quelque chose de positif. La problématique, elle est plus en pratique, puisque les associations de protection animale qui mettent à l'adoption des animaux ne peuvent pas vérifier si la personne candidate à l'adoption a déjà été condamnée et si pèse sur elle cette peine complémentaire. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Ensuite, s'agissant du stage de sensibilisation à la maltraitance animale, à l'heure actuelle, il n'est pas encore mis en place sur tout le territoire national. Donc il faut que cela évolue, puisque tant que cela n'est pas mis en place, eh bien, les juridictions ne peuvent pas prononcer cette peine complémentaire. Ensuite, j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que vous ne pouviez pas, pour certains, déposer des plaintes s'agissant des animaux. Beaucoup de personnes sont apparemment confrontées à des refus de dépôt de plainte ou alors on les incite à déposer de simples mains courantes. Ce type de refus n'est pas permis. Vous pouvez toujours déposer une plainte pénale. À défaut, il faut saisir directement le procureur de la République lui-même. Une fois que cette plainte est déposée, eh bien, il arrive malheureusement qu'il n'y ait pas du tout de poursuite. Parce que même si une enquête a été ouverte, eh bien, elle ne permet pas toujours d'identifier l'auteur de l'infraction. Nous avions déposé une plainte pour un chat qui s'appelait Oslo. Sa propriétaire l'a retrouvé mort dans son jardin. Il avait été victime d'un tir à la carabine. La plainte a été déposée, une enquête a été ouverte, mais les policiers n'ont pas du tout retrouvé en fait, la personne qui avait potentiellement eh bien, tiré sur cet animal, ni même d'indices suffisants pour parvenir à l'identifier. Donc là, malheureusement, eh bien, cette plainte a été classée sans suite et la propriétaire n'a pas pu aller plus loin puisqu'il n'y avait véritablement pas assez d'éléments dans ce dossier. Par contre, Il est important de faire vérifier la procédure pénale par un professionnel du droit afin d'être vigilant et de vérifier que tout a été fait correctement. Je m'explique. Et je vais prendre un exemple pour le chien Olaf, qui était un Rottweiler qui a été laissé toute la journée sur un balcon muselé avec sous sa muselière eh bien, une sangle sans accès à l'eau et en pleine canicule en mois de juillet. Eh bien, vous aviez deux auteurs présumés de cette infraction qui était entendue par les enquêteurs à l'époque. L'une d'elles avouait avoir déjà frappé l'animal avec un balai et l'autre, surtout, avouait avoir laissé l'animal sur le balcon ce matin-là et expliquait qu'il comprendrait que l'on puisse eh bien, le poursuivre et le condamner pénalement. Eh bien, de manière très étonnante, le parquet n'a pas poursuivi la deuxième personne qui avait laissé l'animal sur le balcon. Donc, ce qu'il se passe dans ce cas-là, c'est que il est possible de se constituer partie civile et avec une association de protection des animaux, eh bien, nous avions fait ce que l'on appelle une citation directe, c'est-à-dire que sur la base des déclarations de cette personne, eh bien, nous l'avons convoqué nous-mêmes afin qu'il soit jugé devant le tribunal correctionnel et qu'il réponde de ses actes. La difficulté que l'on remarque aussi dans l'application du droit animalier devant les juridictions, eh bien, c'est que bien souvent, l'on passe d'une affaire de maltraitance animale à une affaire relative à des violences conjugales, à une affaire relative à du trafic de stupéfiants, etc. Il y a des juridictions, et je pense notamment à la Cour d'appel de Toulouse, qui créent des pôles spécialisés dans la maltraitance animale, de sorte que les affaires soient jugées par des magistrats spécialisés et dans la continuité l'une de l'autre. En vous disant cela, eh bien, j'embraye sur les évolutions positives remarquées dans le cadre de la défense pénale des animaux. Donc effectivement, la création de chambres spécialisées pour juger les affaires de maltraitance animale. On a d'autres exemples. Je pense notamment au tribunal judiciaire de Laon. J'y avais été en décembre 2022 pour l'affaire du chien Filou qui avait été frappé par un homme dans la rue et est décédé de ses blessures. Eh bien, l'audience avait lieu une matinée consacrée aux infractions commises contre l'environnement et contre les animaux, ce qui avait permis des débats eh bien, juridiquement très intéressants, et nous avions des professionnels, aussi bien parquet que le juge, qui étaient aguerris à ce type d'affaires. Parmi les évolutions positives, on en a déjà un peu parlé en amont, dans la législation, on a vu qu'il y a eu des peines pénales renforcées, la création de certains textes, etc. En pratique, l'on voit aussi qu'il y a des ouvertures d'enquêtes plus nombreuses, de plus en plus de poursuites, il faut quand même le souligner, et aussi la création de référents parmi les forces de l'ordre avec des personnes qui se spécialisent aussi dans les affaires de maltraitance animale, ce qui devrait à terme eh bien, permettre une meilleure prise en compte, une meilleure application du droit animalier en droit pénal français. J'en terminerai par l'exemple qui me semble le plus notable dernièrement, à savoir la reconnaissance du préjudice animalier par le tribunal correctionnel de Lille dans une décision du 11 janvier 2024. C'est une décision inédite qui a permis d'obtenir une condamnation de l'auteur des sévices graves commis sur la chatte Lana, qui est décédée après avoir subi l'ensemble de ses coups. Eh bien, la personne a été condamnée à plusieurs peines, à plusieurs dommages et intérêts, dont une indemnité symbolique de 100 € au profit de l'association La Ligue protectrice des animaux du nord de la France, qui s'était constituée partie civile dans cette affaire et qui avait été récupérée la dépouille de l'animal, qui avait fait des analyses vétérinaires et qui s'était chargée de son incinération. Cette décision, elle est devenue définitive. Elle a été prononcée sur le fondement du nouveau statut de l'animal dans le Code civil, puisque l'article 515-14 du Code civil, depuis une loi de 2015, eh bien, explique que l'animal est un être vivant doué de sensibilité. Par cette décision, on a le début d'un régime juridique propre à ce statut de l'animal, et donc il faut s'en féliciter et espérer bien évidemment qu'il y ait d'autres décisions en ce sens, que les juridictions se saisissent de cela pour faire évoluer le droit animalier, et bien sûr que le législateur et toutes les parties prenantes continuent à faire évoluer le droit animalier dans un sens de protection de l'animal pour lui-même. Je rappelle pour en terminer avec cet épisode relatif à la défense pénale des animaux que vous pouvez signaler tout acte de maltraitance, toute suspicion de maltraitance auprès des associations de protection des animaux, mais également sur Internet. Il y a un site du gouvernement dédié à ce type de signalement, il ne faut pas hésiter à le faire pour remonter les problématiques et sauver des animaux. Cet épisode de Avocate Justice pour les animaux s'achève. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi de le réaliser. N'hésitez pas à vous abonner à mon podcast ainsi qu'à commenter mes épisodes. Vous pouvez laisser un simple waf, une idée de sujet que vous aimeriez entendre aborder ou le nom de votre animal de compagnie, cela m'aiderait beaucoup. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Avocate Justice pour les animaux. Ciao ciao !